Chapitre 58. Dans les grands couloirs du palais du peuple, Nietzsche marchait un peu devant Kara, Nathan et une cohorte de gardes. Chaque fois que quelqu'un donnait du seigneur râle au prophète, la magicienne grinçait intérieurement des dents. La promotion du vieil homme était indispensable, elle le savait, mais dans son cœur, le seul seigneur râle digne de ce nom s'appelait Richard. Nietzsche aurait tout donné pour croiser de nouveau le regard gris du sourcier. Dans ce palais, elle sentait sa présence partout, sans doute à cause de la magie spécifique d'un lieu spécialement conçu pour avoir la forme d'un sortilège, et pas n'importe lequel, un sortilège voué au service et à la défense du seigneur râle. Donc, de Richard, aux yeux de l'ancienne maîtresse de la mort. Qui n'était d'ailleurs pas la seule à penser ainsi. Pour Kara, il ne pouvait pas y avoir d'autre seigneur râle que Richard. Lorsqu'elles étaient seules, ce qui arrivait assez souvent, les deux femmes se comprenaient sans avoir besoin de parler. Leur angoisse les rapprochait et elles désiraient toutes deux le retour de Richard. Kara prit la tête du petit groupe. Remontant une série de couloirs de service, elle s'engagea ensuite dans un escalier de fer qu'elle gravit résolument. Arrivée en haut, elle ouvrit une porte de fer et déboula sur une plateforme d'observation. Après avoir jeté un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que tout le monde la suivait, la mort de Sid savoura quelques instants la formidable vue. Ici, on avait vraiment l'impression d'être au sommet du monde. Dans les plaines d'Azrit, au pied du plateau, la vermine de l'ordre grouillait comme une colonie de vers sur un cadavre.
« Vous voyez ce que je veux dire ?» demanda Nathan en désignant le chantier dans le lointain.
Au premier coup d'œil, on ne comprenait pas de quoi il s'agissait, mais en plissant les yeux pour mieux voir.
« Vous avez raison, » dit Nietzsche. « C'est une rampe. Mais est-il possible de mener à bien un tel ouvrage ? Cela paraît absurde. »
Nathan prit le temps de la réflexion avant de répondre.
« Je ne suis pas architecte. » Mais si Jagang se donne tant de peine, c'est qu'il pense pouvoir réussir. Ça tombe sous le sens, non ?
Si nos agresseurs finissent par disposer d'une rampe si large, dit Kara, nous aurons de gros problèmes.
Pas pendant longtemps, parce que nous serons très vite morts,
la corrigea le prophète. Nietzsche observa un moment l'activité sur le chantier, puis elle évalua la distance qui séparait la base de la rampe du sommet du haut plateau.
« Nathan, dit-elle, vous êtes un râle, donc le palais renforce considérablement votre pouvoir. Vous devriez être en mesure de pulvériser cette rampe avec une bonne décharge de feu de sorcier. »«
Voilà qui devrait être dans mes cordes, en effet. Mais je suppose que des sœurs ont dû ériger des boucliers, histoire de dévier une attaque de ce genre. Pour le moment, je n'ai rien tenté, même pas un petit coup de sonde. J'attends que l'ouvrage ait avancé encore un peu. » Pour saccager le moral de nos adversaires. Plus ils auront trimé et plus ça les déprimera, pas vrai? Laissons-les s'épuiser pour rien.
Nathan, vous êtes un homme diabolique.
Si tu n'y vois pas d'inconvénient, gentille dame, je préfère l'adjectif ingénieux.
Nietzsche entreprit d'étudier le camp tout autour du chantier. Les distances étaient parfaitement calculées pour que les forces magiques de l'ordre aient le temps de parer une attaque à base de feu de sorcier. Pour avoir longtemps accompagné l'empereur, l'ancienne maîtresse de la mort connaissait parfaitement sa façon de penser. Autant qu'un attaquant fougueux, Jagang était un maître de la défense. À coup sûr, il saurait tirer parti des sœurs de l'obscurité qu'il avait à sa disposition. L'attaque de Nathan aurait intérêt à être puissante.
« Regardez. » On dirait qu'un convoi de ravitaillement vient d'arriver.
L'hiver approche, confirma Nathan. L'armée ennemie ne bougera pas d'ici, c'est évident. Pour survivre à la mauvaise saison, nos écureuils auront besoin d'un gros stock de noisettes.
Amusé par cette image, Nietzsche se demanda pourquoi elle ne pouvait jamais trouver des formulations brillantes et drôles de ce genre. Puis elle songea à ce que les défenseurs pouvaient faire pour contrarier les plans adverses. À peu près rien. La réponse n'était pas difficile à trouver.
Richard a envoyé nos forces dans l'ancien monde, avec mission de tout attaquer, y compris et surtout les convois de ce type. Si ces soudards finissent par crever de faim, ça arrangera nos affaires. En attendant, je réfléchirai à un ou deux moyens de les aider à quitter ce monde. »
Nietzsche détourna le regard du camp et du convoi qui apportait aux soldats tout ce qu'il leur fallait pour assiéger le palais.
« Nathan, je vais devoir y aller, mais si vous voulez me montrer avant mon départ ?»
Comme Kara, le prophète choisit les couloirs puis les escaliers de service pour conduire la petite colonne dans les entrailles du complexe, des sous-sols que pratiquement personne ne connaissait. Même dans ces coins secrets, les murs de pierre, parfois lambrissés, restaient d'excellente qualité, car les différents seigneurs râles empruntaient fréquemment ces passages discrets autant que rapides. Nietzsche était venu au palais pour inspecter le jardin de la vie. Ensuite, elle avait voulu savoir où Burdin en était dans ses recherches. Puis, elle s'était intéressée à la façon dont Nathan se sortait de son nouveau rôle. Bien entendu, la mort de Sith et le nouveau seigneur Hal avaient tenu à lui raconter en détail leurs succès et leurs échecs. Même si elle n'avait guère de temps à perdre, la magicienne s'était forcée à la patience. Mais après avoir vu l'endroit où les boîtes d'Orden étaient restées pendant des années, elle avait eu du mal à se concentrer sur les propos de ses amis. Lors de sa visite du jardin, Nietzsche s'était imprégné de l'atmosphère de l'endroit où Darkenral avait, pour son malheur, ouvert une des boîtes. S'intéressant à la configuration des lieux, elle avait accordé une attention particulière à leur schéma astrologique. Les divers angles par rapport aux cartes du ciel, la manière dont les rayons du soleil et de la lune frappaient le sol, l'orientation de la zone précise où avait été dessiné le sortilège. Depuis qu'elle traduisait le livre de la vie, Nietzsche n'avait plus du tout la même vision du jardin. À travers le prisme de la magie d'Orden, tous les détails s'articulaient précisément, lui donnant une image très rigoureuse du dernier endroit où on avait utilisé les boîtes. Ces données prosaïquement pratiques l'avaient aidé à résoudre certains problèmes encore pendants et à confirmer bon nombre de ses conclusions intuitives. Lorsqu'il eut atteint une double porte défendue par des gardes, Nathan n'eut qu'un geste à faire pour que ces derniers s'écartent et ouvrent les deux battants. Derrière se dressait un mur de pierre blanche trouée et qui semblait avoir à moitié fondu.
« Vous êtes déjà entré ?»
demanda Nietzsche au prophète.
« Non, à mon âge, on essaie de se tenir aussi loin des tombes que possible. »
Nietzsche se pencha pour franchir l'ouverture irrégulière.
« Attends-moi ici. »
dit-elle à Kara, qui faisait déjà mine de la suivre.
« Vous êtes sûr? Tu veux te frotter à la magie ?»
La mort de Sith fit la grimace et n'insista pas, résignée à attendre dehors avec le prophète. Nietzsche envoya un filament de Han sur une torche qui s'alluma aussitôt, malgré son âge vénérable. La grande crypte où la magicienne venait d'entrer avait des murs en granit rose et un sol en marbre blanc. Près de chaque torche, sur tout le périmètre de la salle, un vase en or reposait dans une niche murale. Nietzsche compta ces étranges ornements. Il y en avait 57, un résultat qui ne devait sûrement rien au hasard. Était-ce l'âge du défunt qui dormait pour l'éternité dans un catafalque au centre de la crypte? Ce lieu était angoissant, et pas seulement parce qu'il s'agissait d'un tombeau. À la hauteur des vases, des inscriptions en haut d'aran couraient sur toute la circonférence de la salle. Ce mode d'emploi, rédigé par un père à l'intention de son fils, détaillait la procédure requise pour se rendre dans le royaume des morts et en revenir. Un héritage magique, bien entendu. Une série de sortilèges qui contenaient une part de magie soustractive, la force qui provoquait la fonte des cloisons. Avoir muré la crypte avec des pierres spéciales avait ralenti le processus sans l'enrayer totalement.
« Alors ?»
demanda Nathan, passant prudemment la tête par l'ouverture. Nietzsche sortit de la crypte et s'époussa nerveusement les mains.
« Je ne sais que dire. Selon moi, il n'y a aucun danger pour le moment. Mais les forces impliquées sont si sombres que je peux me tromper. Le mieux serait de sceller cette crypte avec une invocation tripartite. »«
Tu veux le faire ?» pour obturer la salle avec un mélange de magie additive et de magie soustractive?
Non, il vaudrait mieux que vous vous en chargiez puisque vous êtes un râle. Ce serait beaucoup plus efficace. De toute façon, il y a déjà une composante soustractive dans les sortilèges, et ce construct très particulier est l'œuvre d'un membre de votre famille. Le pouvoir que contient cette crypte viendrait facilement à bout de tous les sceaux que je pourrais invoquer, surtout alors que ma magie est affaiblie par celle du palais.
Je m'en occuperai dès que tu seras parti, dit Nathan.
Il étudia le mur à demi fondu.
Tu as une idée sur la cause de l'explosion magique qui a provoqué tous ces dégâts?
D'instinct, je dirais que c'est l'ouverture d'une des boîtes d'Orden, dans le jardin de la vie. Les effets d'une réaction en chaîne que je ne saurais définir précisément. Le processus n'est pas encore assez actif pour que je puisse déterminer la part que joue l'élément soustractif, et encore moins l'objectif qu'il vise. Mais les mots gravés sur le catafalque et sur les murs ont à l'évidence pour but d'aider quelqu'un à s'approprier le pouvoir d'Orden. Tout à fait logiquement, ils ont réagi après avoir été dans le voisinage immédiat de cette magie hautement spécifique.
Compris, fit Nathan pensif. J'aurai recours à une invocation tripartite, et je garderai un œil sur cette tombe.
Je dois partir, Nathan. Je reviendrai dans pas trop longtemps pour savoir si vous avez eu des nouvelles de Richard et pour voir comment avance le chantier de Jagang dehors.
Informe Z que j'ai les choses bien en main. L'ennemi est encerclé et il ne tardera pas à se rendre.
Nietzsche sourit.
Décidément, dire des choses drôles était tout un art.
Je lui ferai passer le mot.
Alors qu'elle remontait les grands couloirs officiels du palais, Kara à ses côtés, Nietzsche se demandait ce qu'elle devait faire, et elle ne trouvait pas vraiment de réponse. Des problèmes angoissants lui tombaient dessus de tous les côtés, et dans la majorité des cas, l'énoncé même de ces problèmes manquait singulièrement de clarté. Pour ne rien arranger, la magicienne n'avait personne avec qui parler de la totalité de ses préoccupations. Jed était un bon interlocuteur dans certains cas, et Kara se révélait très précieuse dans d'autres. Mais Richard était le seul à pouvoir comprendre l'évolution intellectuelle de Nietzsche et l'inexorable altération de sa vision du monde. Mieux que ça, c'était lui qui l'avait initié au concept de magie créative. Elle se souvenait très bien de leur conversation à ce sujet autour d'un feu de camp. Un des multiples moments décisifs qu'elle avait vécu avec le sourcier. En outre, Richard aurait dû savoir d'urgence un nombre important de choses. Certains événements qui le liaient aux boîtes d'Orden étaient préoccupants, pour ne pas dire plus. En un sens, il avait allumé un grand feu sous un chaudron rempli d'ingrédients très dangereux qui menaçaient de se mettre à bouillir et de déborder si on ne faisait rien. Dans cette affaire, Nietzsche était obligé de laisser de côté quelques prophéties qu'elle n'était pas apte à interpréter. En revanche, elle comprenait beaucoup trop bien certaines prédictions qui lui glaçaient les sangs. La première de cette liste était d'une importance capitale. Durant l'année des cigales, on y était justement, quand le champion du sacrifice et de la souffrance, celui qui marche trompeusement sous la bannière de la lumière et de l'humanité, divisera enfin ses forces, ce que Jagang venait de faire, la prophétie aura été éveillée et la bataille finale ne tardera plus. La prudence s'impose. Car dans cette arborescence de prophéties, les bonnes fourches et les mauvaises sont inextricablement emmêlées. Un seul tronc existe, mais ses ramifications dépassent l'imagination. Si Fuer Grissa Host Draoka n'est pas à la tête de ses forces lors de l'affrontement final, le monde basculera pour toujours dans les ténèbres qui menacent depuis longtemps de le dévorer. En d'autres termes, on en était au moment où l'avenir de l'humanité se jouait à pile ou face. Et ce tournant décisif, à l'évidence, restait lié aux boîtes d'Orden. Mais comment? Et dans quelle mesure? Par moments, Nietzsche avait l'impression d'être à un souffle de comprendre. Mais la réponse se dérobait toujours à elle. Juste sous la surface de cette prédiction flottait une notion capitale, la clé de tout, hélas, résolument invisible. Mais dans le monde réel, les événements s'enchaînaient à un rythme de plus en plus effréné, menaçant d'échapper au contrôle de tous les acteurs du drame. Chaque jour, les possibilités de sauver la situation se réduisaient un peu plus. Les sœurs de l'obscurité qui venaient de remettre les boîtes dans le jeu n'étaient déjà plus en mesure d'utiliser la magie d'Orden pour neutraliser les ravages de la chaîne de flammes, évidemment puisque c'était aussi elles qui avaient jeté ce sort. Les carillons ayant contaminé le sortilège d'oubli, ces mêmes sœurs perdaient chaque jour une partie du pouvoir qu'elles auraient pu utiliser pour limiter les dégâts. Plus généralement, tous les pratiquants de la magie risquaient de devenir parfaitement inutiles, car la contamination s'étendait à l'ensemble des formes de magie. Parallèlement, le livre de la vie avait pris pour Nietzsche une importance qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'étude des obscurs grimoires que lui avait fournis Zed avait également aidé Nietzsche à mieux comprendre ce qu'elle appelait désormais la théorie ordénique. Hélas, chaque nouvelle connaissance était l'occasion pour elle de se poser 10 nouvelles questions sans réponse. Entendant un bruit étrange, Nietzsche sursauta et s'immobilisa.
C'était quoi ?
La cloche des dévotions,
répondit Kara, surprise par la réaction de son ami. Des dizaines de gens affluaient vers une petite cour à ciel ouvert au milieu de laquelle trônait un petit bassin.
Nous devrions peut-être y aller aussi, dit Kara. Les dévotions sont souvent utiles quand on a des problèmes, et je vois bien que vous en avez beaucoup.
Nietzsche se demanda comment la mort de Sid pouvait lire ses pensées. Mais en y réfléchissant un peu, elle conclut que ce n'était pas un exploit, considérant la tête qu'elle devait tirer.
« Je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que je retourne auprès de Zed pour trouver une solution. »
Kara ne parut pas convaincue.
« Penser au Seigneur Hall peut être d'un grand secours. »«
Qu'ai-je à faire de Nathan ? Tout le monde croit qu'il est le Seigneur Hall, mais pour moi c'est toujours Richard. Et... »«
Je sais, »
la coupa Kara.
« C'est exactement ce que je voulais dire. »
Elle prit Nietzsche par le bras et l'entraîna vers la cour de dévotion.
« Venez avec moi. »
Nietzsche renonça à résister.
Prendre un petit moment pour penser à Richard ne peut pas me faire de mal, je suppose.
Kara se contenta d'acquiescer. Les gens s'écartant respectueusement sur le chemin de la mort de Sit, les deux femmes approchèrent sans peine du bassin où nageaient de petits poissons argentés. Sans vraiment s'en apercevoir, Nietzsche se retrouva agenouillé à côté de Kara, le front plaqué contre le sol.
« Maître Hall nous guide, »
récita la foule.
« Maître Hall nous dispense son enseignement. Maître Hall nous protège. À sa lumière, nous nous épanouissons. Dans sa bienveillance, nous nous réfugions. Devant sa sagesse, nous nous inclinons. Nous existons pour le servir et nos vies lui appartiennent. »
Nietzsche ajouta sa voix à celle des autres fidèles du Seigneur Hall. Comme Kara, elle s'adressait à Richard, pas à Nathan. Mais personne ne pouvait s'en douter. Curieusement, l'esprit de la magicienne s'apaisa tandis qu'elle déclamait la fervente litanie.
« Maître Hall nous guide, Maître Hall nous dispense son enseignement, Maître Hall nous protège, à sa lumière nous nous épanouissons, dans sa bienveillance nous nous réfugions, devant sa sagesse nous nous inclinons, nous existons pour le servir et nos vies lui appartiennent. »
S'immergeant dans ces mots, Nietzsche sentit vaguement la caresse du soleil sur son dos. L'hiver commencerait le lendemain, mais à l'intérieur du palais, il faisait toujours une température des plus agréables. La beauté et la clémence de ces lieux étonnaient toujours Nietzsche. Comment Darkenral, et avant lui Panis, son père, avait-il pu faire de ce petit paradis le fief du mal le plus absolu? Mais au fond, un lieu restait un lieu, car c'étaient les hommes qui faisaient la différence. La personnalité du Seigneur Hall changeait tout, comme le démontraient les dévotions quand on savait les écouter attentivement.
« Maître Hall nous guide, Maître Hall nous dispense son enseignement, Maître Hall nous protège, à sa lumière nous nous épanouissons, dans sa bienveillance nous nous réfugions. Devant sa sagesse nous nous inclinons, nous existons pour le servir et nos vies lui appartiennent. »
Ces mots serraient le cœur de Nietzsche, qui se désespérait de ne plus voir Richard. Même s'il aimait une autre femme, elle avait envie de lui parler, de le voir sourire, de croiser son regard. Pour donner un sens à sa vie, l'amitié pouvait suffire lorsqu'elle était de cette qualité. Et on voulait toujours que ses amis soient vivants, heureux et joyeux, n'est-ce pas ?
Nos vies lui appartiennent.
Nietzsche se redressa sans crier gare. Elle venait de comprendre.
« Quelle mouche vous pique ?»
demanda Kara, le front plissé.
« Nos vies lui appartiennent. Bien entendu. »
Désormais, Nietzsche savait ce qui lui restait à faire. Elle se leva d'un bond.
« Suis-moi, il faut que je retourne dans la forteresse. »
Alors qu'elle courait dans les couloirs en compagnie de la mort de Sit,
Nietzsche entendit les échos de la prière qui montait de toutes les cours de dévotion.
« Maître Râle nous guide, Maître Râle nous dispense son enseignement, Maître Râle nous protège, à sa lumière nous nous épanouissons, dans sa bienveillance nous nous réfugions, devant sa sagesse nous nous inclinons, nous existons pour le servir et nos vies lui appartiennent. »
Dès qu'il vit Nietzsche entrer en trombe, Z se leva du petit bureau où il étudiait le créateur savait quel mystérieux ouvrage.
« Te revoilà, mon enfant. Comment ça se passe là-bas ? »
La magicienne entendit à peine la question et elle n'envisagea pas un instant de répondre.
« Que t'arrive-t-il ? »
demanda Z.
« On dirait que tu viens de croiser un fantôme dans le couloir. »
« Z, faites-vous confiance à Richard. »
« Pourquoi cette question idiote ? »
« Mettriez-vous votre vie entre ses mains ?»«
Bien entendu. Qu'est-ce qui te prend ?»«
Lui mettriez-vous entre les mains le sort de l'humanité ?»«
Nietzsche, j'adore ce garçon. » »«
Z, répondez à ma question. »
L'air très inquiet, le vieil homme hocha la tête.
« Bien entendu que je lui confierai le sort de l'humanité. Si je me fie à quelqu'un à ce point, ça ne peut être que lui. Après tout, c'est moi qui l'ai nommé sourcier de vérité. »
« Merci, »
dit simplement Nietzsche. Elle se détourna et s'en fut. Relevant d'une main l'ourlet de sa longue tunique, Z lui emboîta le pas.
« Tu as besoin d'aide, Nietzsche ?»«
Non, merci, je vais très bien. »
Prenant cette déclaration pour argent comptant, le vieil homme s'arrêta, fit demi-tour et s'en retourna à ses chères études. Nietzsche traversa le dédale de couloir de la forteresse comme dans un rêve. On eût dit que ses pieds la conduisaient d'eux-mêmes à sa destination.
« Où allons-nous ? »
demanda Kara tout en emboîtant le pas à son ami.
« Mettrais-tu ta vie entre les mains de Richard ?»«
Bien entendu. »
Nietzsche hocha la tête et accéléra encore le pas. Après une longue série de couloirs, de salles et d'escaliers, elle atteignit la zone sécurisée de la forteresse, puis la grande salle où la toile de vérification avait failli la tuer. Sans Richard, elle serait morte ce jour-là. Mais alors que tout le monde avait baissé les bras, il s'était battu jusqu'au bout pour la tirer de là. Oui, elle aurait confié sa vie à Richard, et grâce à lui, justement, cette vie était devenue un bien précieux à ses yeux. Sur le seuil de la salle, la magicienne se tourna vers Kara.
« Il faut que j'y aille seule. »«
Mais je... »«
Tu veux te frotter à la magie ?»«
Si vous présentez encore les choses comme ça, j'attends dehors au cas où vous auriez besoin d'aide. »«
Merci, Kara. Tu es une amie formidable. »
« Avant de connaître le Seigneur Râle, j'ignorais le sens du mot « ami ».»«
Et moi, avant de le rencontrer, je n'avais aucune raison de vivre. »
Nietzsche entra et referma la double porte derrière elle.
Dehors, un orage se déchaînait, les éclairs illuminant la grande fenêtre récemment réparée. À sa connaissance, Nietzsche n'avait jamais mis les pieds dans cette pièce un jour où il n'y avait pas de tempête. Aujourd'hui, le monde entier était dévasté par un cyclone. Mais un objet bien spécial restait insensible à la fureur des éléments. Plus noir que la nuit, cet artefact attendait son heure, aussi patient que la mort elle-même. Nietzsche ouvrit le livre de la vie et le posa sur la grande table à côté de la boîte d'Orden qui ne reflétait pas la lueur des éclairs mais l'absorbait avec une voracité de bête fauve. Nietzsche lança le premier sort. Ordonnant aux ténèbres d'imiter l'impossible teinte noire de la terrible boîte. Comme pour les lieux, se rappela-t-elle, c'était la personne qui comptait lorsqu'on manipulait les forces les plus obscures de la magie. Le pouvoir était un outil, rien de plus. Celui qui le maniait faisait la différence. Obéissant au sortilège, la double porte se verrouilla. Désormais, plus personne ne pourrait entrer dans cette salle. Le champ de force de la fenêtre n'avait plus aucune importance, puisque Nietzsche avait jeté un sort de protection 100 fois plus puissant. Dans la salle silencieuse, au cœur de la ténèbre, Nietzsche n'eut même pas besoin de plisser les yeux pour bien voir, car la magie qu'elle invoquait décuplait son acuité visuelle. Elle lut le texte qui figurait sur la deuxième page du livre de la vie. La phase suivante d'un protocole qui conduisait inexorablement à la formule centrale. Utilisant un filament de magie soustractive pour faire disparaître un minuscule bout de peau sur son index,
l'ancienne maîtresse de la mort se servit de son sang pour dessiner devant la boîte d'Ordaine le diagramme qui déclencherait tout. Prudente, elle érigea un champ de force autour de l'artefact. Sans cette précaution, le pouvoir qui émanait déjà de la boîte aurait pu déchirer le voile. Un simple accident mais suffisant pour tuer la magicienne et elle seule pour le moment. Pratiquement sans regarder le grimoire qu'elle avait le sentiment d'étudier depuis des lustres, Nietzsche passa aux formules relatives à la chronologie du sort. Comme il convenait, on était aujourd'hui le premier jour de l'hiver. Lorsqu'elle eut terminé, elle ajouta au diagramme les deux symboles opposés rituels et les relia par une ligne droite de sang. À partir de là, la construction du sortilège devint un jeu de patience et de précision dont Nietzsche ne douta pas un instant de sortir gagnante. Chaque point évoqué dans le livre devait être négocié avec l'exacte quantité de pouvoir qu'il mettrait ensuite en œuvre. À chaque étape, l'ancienne maîtresse de la mort respecta à la lettre les exigences du protocole. C'était obligatoire et d'une dérisoire facilité. Au fil de la nuit, un construct se matérialisa autour de la boîte. Assez proche de la toile de vérification du sort d'oubli, cette superstructure magique s'en distinguait cependant, car ses lignes n'étaient pas toutes vertes. Alors que certaines se révélaient d'une blancheur immaculée, celles qui puisaient leur énergie dans la magie soustractive étaient si noires qu'on eût dit de très minces craquelures de néant, voire d'étroites meurtrières donnant directement sur le vide obscur du royaume des morts. Lorsqu'elle eut prononcé la dernière incantation, Nietzsche entendit enfin le murmure d'Ordaine, la preuve qu'elle avait procédé comme il le fallait. Plus qu'une voix, cependant, c'était une force brute qui soufflait dans sa tête les mots tant attendus.
La magie s'ouvre au monde.
Je demande que les boîtes d'Ordaine soient remises dans le jeu en cet instant, en ce lieu et dans ce monde.
Et qui sera le joueur?
Nietzsche posa les mains sur la boîte plus noire que la mort.
Richard Rahl, dit-elle. Que sa volonté soit accomplie. S'il en est digne, obéis-lui en toute chose. Tue-le s'il n'est qu'un imposteur et détruis la vie elle-même s'il entend nous trahir.
Le cycle commence. Dès cet instant, le pouvoir d'Ordaine est remis dans le jeu par Richard Rahl.
Nietzsche repensa à la prophétie qu'elle tenait pour la clé de tout. Si Fuergrissa Host Draoka n'est pas à la tête de ses forces lors de l'affrontement final, le monde basculera pour toujours dans les ténèbres qui menacent depuis longtemps de le dévorer. Nietzsche en était à présent certaine. S'il voulait vaincre, Richard devait diriger ses forces lors de la bataille finale, et pour ça il devait avoir remis les boîtes dans le jeu, car c'était l'unique moyen pour le sorcier de devenir réellement Fuergrissa Host Draoka, le messager de la mort. Cette prophétie et d'autres affirmaient que les fidèles de Richard devaient le suivre. Mais les prédictions n'étaient pas tout. Par exemple, elles se contentaient de suggérer ce que Nietzsche savait à présent avec une indestructible certitude. Richard était l'incarnation de la vie et de toutes ses valeurs positives. En ce sens-là, personne n'avait besoin d'obéir aux prophéties, car c'était elle en réalité qui obéissait à Richard. Être fidèle au sorcier revenait à le suivre aveuglément, quoi qu'il ait fait avec les boîtes d'Ardenne ou la vie et la mort elle-même pour ce que ça changeait. L'épreuve ultime venait de commencer, déterminant qui était Richard, qui il pouvait être et qui il serait finalement. Il avait lui-même exposé la règle du jeu devant les officiers d'Aran. Cette guerre allait être totale et au bout il y aurait la victoire ou la mort. À partir de maintenant, il en allait de même pour l'avenir du monde. Tout ou rien, le triomphe ou le néant. Ulyssia et ses sœurs de l'obscurité avaient ouvert le portail par lequel passerait la magie d'Ordaine. Depuis peu, le combat était équilibré. Si Nietzsche ne se trompait pas au sujet de Richard, et c'était une éventualité inenvisageable, deux forces égales étaient désormais engagées dans la bataille qui déciderait de tout. Si Fuergrissa Host Draoka n'est pas à la tête de ses forces lors de l'affrontement final, le monde basculera pour toujours dans les ténèbres qui menacent depuis longtemps de le dévorer. Nietzsche, Zed et tous les autres devaient se fier à Richard. Pour cette raison, la magicienne venait de remettre les boîtes d'Orden dans le jeu au nom du sorcier. Les sœurs de l'obscurité n'étaient plus les seules à décider du devenir d'un pouvoir hors du commun. Désormais, Richard était revenu dans le jeu, et il avait une chance de l'emporter comme tous les autres participants. Sans l'intervention de Nietzsche, il n'aurait même pas pu survivre. Après une longue plongée dans un monde qui n'appartenait qu'à elle, l'ancienne maîtresse de la mort ouvrit les yeux. Dehors, l'orage avait cessé et un nouveau jour se levait. La première aube de l'hiver. Richard aurait un an pour ouvrir la bonne boîte. Le sort de l'humanité reposait entre ses mains. Nietzsche lui aurait confié sa vie sans hésiter. Faisant un pas de plus, elle venait de le nommer défenseur de la vie elle-même. De toutes les vies, oui, jusqu'à la dernière. Car si elle ne pouvait pas faire confiance à Richard, son existence ne valait pas d'être vécue.
Vous venez d'écouter L'épée de vérité, livre 10, Le fantôme du souvenir, de Terry Goodkind, traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Vincent Deboire. Une production Audible Studio.